l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Que faire pour juguler la crise du Covid-19? La quatrième vague de contamination est indéniablement déjà dans la région métropolitaine de Séoul. En réponse, les autorités sanitaires ont relevé le niveau de distanciation sociale à 4, le plus élevé selon le nouveau schéma. Or, certaines consignes sont loin de faire l'unanimité. Quel morceau aimeriez-vous écouter tout en faisant votre sport? Butter de BTS ou Gangnam Style de Psy? À Séoul, vous n'aurez pas le choix. La première chanson fera l'affaire parce que la seconde n'est plus autorisée dans les salles de fitness. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est ce qu'on peut déduire du nouveau dispositif de distanciation sociale. L'alerte maximale a été déclenchée hier à Séoul et dans sa couronne. Elle correspond au niveau 4 dans le nouveau barème et le gouvernement a dressé une liste détaillée des règles à respecter au dernier stade. Selon elle, il faut maintenir un tempo musical de 100 à 120 BPM lorsque l'on fait des exercices en groupe comme la danse collective, le cyclisme en salle, l'aérobic, le yoga chaud, le cours de gymnastique ou le saut à la corde. En pratique, il est donc autorisé d'écouter Butter des Bangtan Boys, dont le rythme est de 110 BPM. Mais il sera interdit de mettre de nombreux morceaux de Psy ou de Big Bang dans la vitesse dépasse 130 BPM alors qu'ils font partie de la playlist habituelle pour les exercices en groupe. Une autre règle à respecter à la gym, sur le tapis de course, la vitesse maximale autorisée est fixée à 6 km/h. Si on court trop vite, on est hors d'haleine, ce qui risque de nous faire propulser des gouttelettes. Afin d'éviter cela, la limitation de vitesse est donc imposée. Mais sur le terrain, on se moque bien de ces règles. Comment peut-on vérifier la vitesse de chaque musique jouée dans les salles de sport? Ou encore comment les autorités sanitaires envisagent-elles de contrôler cela? Bref, les mesures restrictives concernant les rassemblements privés s'appliquent aussi aux sports pratiqués en plein air. En conséquence, seuls deux golfeurs peuvent jouer ensemble à partir de 6h du soir. Les caddies de golf n'entrent pas dans ce calcul. Certes, le risque de contamination est moins élevé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Néanmoins, une plus grande précaution devrait être de mise, étant donné que 4 ou 5 personnes se déplacent à bord d'une petite voiture de golf tout terrain pendant plusieurs heures. Ces mesures sont jugées déconnectées de la réalité en ce qu'elles ne prennent pas en compte la situation sur le terrain. Mais les autorités sanitaires soulignent qu'elles ont adopté ce dispositif en concertation avec les secteurs concernés afin de réduire au maximum à la fois les dégâts infligés aux petits commerçants et aux industriels ainsi que le risque de contamination au coronavirus. Et s'il suffisait de manger un panier repas pour gagner gratuitement une action boursière? Une telle initiative a été prise conjointement par Imart24, une grande enseigne de supérettes ouverte 24h sur 24, et Hana Financial Investment, un établissement spécialisé dans les transactions boursières. Le nouveau produit sera vendu à partir de demain et il s'appelle Jushik Toshilak. Il joue sur une homonymie. En effet, le mot coréen jushik peut signifier le repas principal ou encore l'action boursière. Le mot toshilak signifie un panier repas, plus souvent un casse-croûte qu'on peut manger rapidement. En employant le terme jushik, le nouveau produit propose un repas équilibré de la cuisine traditionnelle, à savoir du riz cuit à la vapeur avec 7 petits plats d'accompagnement. Dans ce panier repas, tout acheteur trouvera un code QR donnant droit à une action parmi les titres de 10 géants sud-coréens tels que Samsung Electronics, Hyundai Motor ou Naver entre autres. Il est invité à utiliser ce code pour devenir un nouvel adhérent du service de Hana Financial Investment et une fois cette procédure terminée, il se verra attribuer une action choisie par tirage au sort. Ce panier repas en sera en vente du 14 juillet au 12 août. L'inscription au service financier en question est ouverte sur la même période. Cependant, les premiers arrivés seront les premiers servis parce que le nombre d'actions offertes est limité à 10 000. Une fois leur enregistrement achevé, ces ventes en promotion prendront fin automatiquement. Il s'agit d'une première initiative de ce type et Imar24 ainsi que Anna Financial Investment semblent vouloir bien tirer profit de l'engouement pour les investissements en bourse parmi les générations MZ, qui est aussi la principale clientèle des paniers repas vendus dans les supérettes. Selon les dernières statistiques sur les investisseurs des particuliers dans les entreprises cotées en bourse, le nombre de jeunes âgés de 20 à 29 ans qui sont titulaires d'actions boursières est passé de 382 000 à 1 071 000 personnes entre 2019 et 2020, soit une hausse de 180% en un an. Les deux entreprises espèrent des retours positifs des consommateurs. Reste à savoir si la demande suivra l'offre. L'été rime avec glace râpée, appelée pingsu en coréen. Dans sa version classique, elle se présente comme un dessert fait de glace finement râpée, recouverte de haricots rouges cuits et décorée d'autres fruits. Aujourd'hui, le pingsu se décline de façon très variée, et les hôtels de luxe s'y mettent aussi. Le 1er juillet dernier, le Joseon Palace Seoul Gangnam a présenté sur sa carte un nouveau dessert dont le prix fait beaucoup parler de lui, à savoir 98 000 won, soit 73 € rien que ça, ce qui avoisine le prix d'un buffet à volonté dans un hôtel de luxe. Il s'agit de la glace râpée au raisin blanc Shine Muscat. Ce fruit coûte très cher, mais il se vend très bien en raison de sa grande saveur. C'est le Jeju Shilla Hotel qui a lancé l'ancêtre de la glace râpée haut de gamme en 2008, un Apple Mango Pingsu à 20 €. Cette glace râpée à la pomme mangue était 10 fois plus chère qu'un bol classique aux haricots rouges qui se vendait dans une boulangerie ordinaire à l'époque. Et d'autres établissements s'y sont lancés. Depuis, le prix de ce pingsu ne cesse de monter pour atteindre 50 € aujourd'hui, mais les hôtels concernés ont leur mot à dire car ils utilisent des ingrédients de haute qualité, donc à un prix élevé. Pour en revenir au Shine Muscat Pingsu, la plaisanterie a bon train sur les réseaux sociaux. Un seul grain de raisin vaudrait plusieurs milliers de won, soit quelques euros. Si un serveur faisait tomber un grain sur la table en posant le bol et prêt à l'enlever avec une serviette de table, on aurait envie de crier « Laisse-le, je vais le manger !» Mais on ne peut pas le faire, il faut garder sa dignité. Une précision tout de même, un grain de raisin ne coûte pas si cher en réalité. Pour préparer une glace chez Joseon Palace Seoul Gangnam, on utilise 5 grappes de raisin. Une seule sert à décorer le haut de la glace. Les 4 autres passe dans l'extracteur de jus avant d'être gelé et râpé. La glace râpée de luxe attire la génération MZ, qui se caractérise par la bipolarisation des comportements. Ces jeunes se montrent très exigeants en termes de qualité-prix pour les produits qu'ils jugent ordinaires, mais ils ne comptent pas leurs sous pour consommer ce à quoi ils accordent une grande valeur. Pour eux, il est moins important de goûter la saveur de la nouvelle glace que de faire l'expérience de l'ambiance haut de gamme et de photographier la scène pour la mettre en ligne. Les glaces de luxe ne rapportent pas gros aux hôtels parce que leurs ingrédients coûtent très cher, mais elles ont d'autres visées. Il s'agit de faire la publicité de l'établissement, d'attirer les jeunes susceptibles de consommer plus tard d'autres services plus chers, comme une cuisine plus raffinée, un séjour dans une chambre d'hôtel, et par ricochet de séduire les quarantenaires et cinquantenaires qui veulent faire comme les jeunes.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul le jour en compagnie de Franck Atlani. Avez-vous un rituel que vous ne manquez pas de faire pour commencer votre journée? Pour Ha Young-un, dès le réveil, elle se met entièrement nue devant un grand miroir rectangulaire et elle scrute son corps attentivement pour relever d'éventuels changements tels qu'une petite plaie. Ainsi, elle fait preuve de professionnalisme. En effet, Madame Ha, âgée de 54 ans, est une pionnière du modèle nu. Elle est la première personne à avoir exercé ce métier en révélant son véritable nom au pays du matin clair. Elle a récemment publié un essai intitulé « Je suis modèle nu » et son son livre attire l'attention. Ah, Young-un ne semblait pourtant pas prédestiné à cette profession. Née dans une bourgade provinciale, elle est sixième dans une fratrie de 4 garçons et 3 filles. Elle se sentait étouffée sous l'autorité de son père qui lui inculquait les valeurs confucéennes en disant « l'homme est le ciel, la femme est la terre ». Sortie du lycée, Ah est montée à Séoul. La journée, elle travaillait dans une petite entreprise d'import-export. Et un jour, dans la rue, elle s'est fait voler son sac avec son salaire dedans. Et elle s'est rappelé la proposition de l'un des photographes qui fréquentait le restaurant où elle faisait un petit boulot pour gagner de l'argent. Il s'agit de devenir modèle posant nu. À partir de 1988, Ha a mené une double vie. En semaine, elle était une salariée ordinaire et le week-end, elle posait nue devant l'objectif de la caméra. Mais elle ne l'a pas dit à sa famille ni à ses amis. À l'époque, c'était mal vu, voire incompris. En 1995, elle a décidé de se consacrer entièrement à son nouveau métier en le révélant à tous. Elle voulait s'accorder plus de temps pour prendre soin de son corps. Surtout, elle voulait avoir de l'assurance et se sentir fière d'inspirer les artistes avec son corps. Ainsi, elle n'avait pas peur de distribuer sa carte de visite en y inscrivant modèle nu Ha Young-un. Or, certains la déchiraient dès qu'ils la recevaient par peur de passer pour quelqu'un d'indécent. Pour lutter contre les préjugés, Madame Ha a fondé en 1996 l'Association des modèles nus de Corée parce que l'union fait la force après tout. Elle voulait faire respecter ses consoeurs et confrères. Au début, c'était mal compris. Un an après, les agents du Service national du renseignement ont débarqué dans le bureau de l'association après que certains les dénonçaient comme un groupe étrange et suspicieux. Ils l'ont mis sous surveillance pendant près de 3 mois. Cela n'a pas découragé Madame Ha et son association a établi un règlement du travail comme l'obligation pour les peintres et photographes de ne pas toucher le corps du modèle et continue d'aider ses adhérents victimes d'actes injustes tels que le harcèlement sexuel en apportant un soutien juridique. Aujourd'hui, l'association compte 500 membres. 100 personnes sont des professionnels à plein temps. Les autres posent nus à temps partiel. Certains le font pour gagner de l'argent, mais d'autres par curiosité pour tenter une nouvelle expérience, relever un nouveau défi ou bien retrouver la confiance en soi. Parmi eux, on peut trouver un ancien SDF alcoolique, un pasteur chrétien, une femme au foyer et un ancien patron de PME. Sur YouTube, un nouveau thème est en pleine émergence. Il s'agit de vidéos qui font redécouvrir la valeur des tâches ménagères, autrefois considérées comme un travail ingrat. Par exemple, on peut citer celle montrant comment couper la pastèque de sorte à la manger et à la conserver facilement. Une vidéo de 3 minutes partageant ce savoir-faire a été vue plus de 60 000 fois en un mois. Elle n'a pas été postée par une célébrité, mais par quelqu'un d'ordinaire. On peut retrouver la même ambiance dans d'autres clips montrant comment conserver longtemps le poireau ou le chou paumé et expliquant pourquoi il faut huiler la planche à découper en bois. Sous le pseudonyme Ami Mami, une femme de 34 ans tient une chaîne YouTube intitulée « De petites habitudes pour maintenir la propreté dans la cuisine et pour réduire les produits jetables au quotidien ». Après la naissance de son bébé, elle a pris un congé parental. Depuis, elle a frôlé la crise d'identité en vivant calfeutrée chez elle. Ainsi, elle a commencé à enregistrer sa vie quotidienne et à poster des vidéos en ligne. Cela lui a permis de retrouver confiance en soi. Dans une de ses vidéos, elle dépose l'enfant à la crèche, rentre à la maison, fait la vaisselle avec un produit écologique et va acheter un plat simple à emporter avec son propre récipient pour ne pas utiliser d'emballage jetable. En un an, cette vidéo a été vue 5,4 millions de fois. Ami Mami n'est pas la seule à poster des vidéos de ce genre qui n'ont rien de sensationnel. En général, leurs auteurs préfèrent ne pas exposer leur visage, réduisent au strict minimum la conversation, mettent une bande de musique calme et sous-titrent le message à faire passer. Ainsi, en regardant ces vidéos, on peut se concentrer sur les tâches ménagères. Mais comment expliquer la popularité de ces vidéos? Eh bien, avec la crise du Covid-19, on passe plus de temps à la maison. L'occasion de s'intéresser davantage aux tâches ménagères. Ces vidéos séduisent non seulement des internautes sud-coréens, mais aussi étrangers. On peut lire de nombreux commentaires en plusieurs langues exprimant l'empathie et le soutien, comme les suivants. Cela m'a permis de réaliser enfin que le nettoyage n'est pas une chose barbante et insignifiante, mais qu'il purifie l'esprit. Ça m'a donné de la sérénité. Ou encore, c'est motivant de regarder cette vidéo alors que j'ai eu un coup de blues. Connaissez-vous Kimchi M Chips ? Et non, il ne s'agit pas d'une variation du fameux plat anglais Fish and Chips, mais d'un groupe artistique mixte baptisé ainsi. Depuis le 11 juin, son œuvre intitulée Le Halo est exposée dans la cour en plein air au pavillon de Séoul du Musée National d'Art Moderne et Contemporain. Et elle attire l'attention des médias. 99 miroirs robotiques y sont installés. Ils bougent pour suivre le mouvement du soleil. En reflétant la lumière, ils créent 99 rayons qui entrent en interaction avec le brouillard humide, créé à l'aide de 4 brumisateurs. Et cela dessine un cercle brillant dans l'air. C'est une façon d'inviter le soleil devant ses yeux. On peut le voir seulement les jours de ciel dégagé et sans vent perturbateur. Le soleil est incarné sous forme de halo momentanément à la joie des spectateurs. Le halo représente par excellence le concept pratique de kimchi and chips, à savoir dessiner dans l'air. L'œuvre représente la rencontre entre la nature, la technologie et l'humain dans un cercle du hasard et de la nécessité. Pour fabriquer cette installation, Kimchi & Chips a collaboré avec des spécialistes d'autres domaines tels que l'ingénierie des matériaux, la robotique, les mathématiques et l'astronomie. Pour finaliser ce projet, il a fallu 2 ans depuis la conception jusqu'à la réalisation. Selon Kimchi & Chips, alors que tout est planifié dans la vie moderne, cette œuvre rappelle que certaines choses sont hors de notre contrôle et que ce n'est pas forcément mauvais. Mais alors d'où vient ce nom ? Kimchi & Chips est un studio d'art fondé en 2009 par la sud-coréenne Son Mimi et le britannique Elliot Woods qui ont fait des études respectivement d'art visuel et de sciences physiques. Kimchi and Chips représente bien la cuisine du pays de chacun des deux artistes, le mets qu'on retrouve toujours sur la table quoi qu'on demande. Depuis 12 ans, Kimchi and Chips continue de créer de nouvelles images au-delà des formes formatées et cela à l'aide de la nature et des technologies. Le groupe s'est fait remarquer notamment avec son installation Light Barrier, dont 630 miroirs et rayons tous différents incarne la nature et la société humaine. Avec cette œuvre, il a décroché le prix d'excellence au concours Art Electronica en Autriche et le grand prix dans le domaine Media Art à la Biennale européenne de Media Architecture. Les artistes en tandem militent pour partager via les réseaux sociaux le savoir-faire acquis après de nombreuses expérimentations. Ils regrettent que les jeunes artistes talenteux soient nombreux à quitter le pays du matin clair. Ils veulent leur apporter un soutien afin qu'ils puissent grandir artistiquement tout en restant dans le pays. Si vous voulez découvrir leur art, voici l'adresse de leur site www.kimchiandchips.com. À vos marques. Nous sommes à 10 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'été de Tokyo. Comme annoncé, durant 2 semaines, nous allons y consacrer chaque jour une rubrique. Thierry Laplanche nous rejoint donc pour vous faire découvrir cette fête sportive planétaire avant l'heure. Bonjour Thierry.
Bonjour Franck.
À partir d'aujourd'hui, nous allons vous présenter les disciplines phares qui peuvent rapporter le plus de médailles à l'équipe nationale sud-coréenne. D'abord, honneur au tir à l'arc. On dirait bien une valeur sûre, n'est-ce pas ?
En effet, la Corée du Sud a obtenu 3 médailles d'or dans le tir à l'arc aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Et elle a su renouveler le même exploit aux JO de Sydney en 2000, d'Athènes en 2004 et de Londres en 2012. Elle a même fait mieux à Rio de Janeiro en 2016, où elle a raflé l'ensemble des 4 médailles d'or en jeu, à savoir dans les compétitions individuelles et par équipe, hommes et femmes. Cette fois, elle misera sur un plus gros butin. En effet, il y a une nouveauté aux JO de Tokyo. Les épreuves par équipe mixte font leur entrée au programme olympique de l'été. Chaque équipe sera composée de 2 hommes et 2 femmes. Le pays du matin clair s'est fixé l'objectif de rafler les 5 médailles d'or.
La concurrence est tellement rude dans le tir à l'arc sud-coréen qu'on affirme, non sans humour, qu'il est plus difficile d'intégrer l'équipe nationale que de gagner une médaille olympique. Alors, qui a réussi à relever ce défi aussi dur que de faire passer un fil dans le chat d'une aiguille ?
Eh bien, ils sont 6, 3 archers, Kim Woo-jin, Oh Jin-hyuk et Kim Jae-dok, et 3 archères, Kang Chae-young, Chang Min-hee et Han San. Dans l'équipe masculine, on remarque la présence de Kim Woo-jin, le médaillé d'or en compétition par équipe à Rio, et de Oh Jin-hyuk, champion en compétition individuelle à Londres. Kim Jae-dok, encore lycéen, est une étoile montante. Il a décroché la médaille d'or contre Kim Woo-jin à la Gwangju 2021 Asia Cup Leg One, organisée en juin dernier.
Et parmi les archères, il y a la détentrice d'un record mondial.
Effectivement, Gang Cheyang a établi un record mondial avec 692 points en compétition individuelle et 1388 points en compétition par équipe au championnat du monde de tir à l'arc en 2019. C'était une belle revanche car 5 ans auparavant, elle avait manqué le rendez-vous olympique de très peu. Elle a en effet terminé 4e avec un écart d'un seul point au match de sélection pour les JO de Rio. Forgée par cette épreuve douloureuse, Gang a été qualifiée en tête cette fois-ci pour faire ses débuts aux Jeux Olympiques. En tant que capitaine de l'équipe féminine, elle se voit confier une grande responsabilité, remporter la 9e victoire consécutive en compétition par équipe féminine pour perpétuer la gloire depuis les JO de Séoul. Quant à Zhang Mini, elle s'est connue pour être imperturbable face au vent et Han San, elle, est appréciée pour son mental d'acier.
Dès le lendemain de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, à savoir le 24 juillet, la finale aura bien lieu en compétition par équipe mixte.
Exactement, c'est pourquoi la Corée du Sud espère récolter sa première médaille d'or en tir à l'arc. L'entraîneur en chef de cette discipline, Park Chae-soon, a décidé de composer une équipe mixte avec les archers et les archères qui se montreront les plus performants au tour de qualification en compétition individuelle masculine et féminine qui se dérouleront le jour de l'ouverture des JO. Il s'agit donc de confier la mission à ceux qui seront les plus en forme le jour J. Cette stratégie a tout son sens parce que le tir à l'arc, c'est une discipline très sensible aux conditions météo et autres facteurs du terrain de jeu du jour.
Justement, c'est afin d'y faire face que l'équipe nationale sud-coréenne mène divers exercices dont certains peuvent paraître insolites à première vue.
Bien vu. Par exemple, il s'agit d'organiser un match de démonstration dans un stade de baseball où le tapage sonore met à l'épreuve la concentration des archers et aussi le plongeon de haut vol, le saut à l'élastique, la marche à pied nocturne, entre autres. Le but est de préparer les archers à différents facteurs. Une nouveauté est apparue au centre d'entraînement national de Jincheon. Un site de compétition en simulation y a été aménagé, de sorte à reconstituer exactement le terrain de tir à l'arc du parc de Yumenimosha, où se tiendront les épreuves du tir à l'arc aux JO de Tokyo. Par ailleurs, le mois dernier, un entraînement spécial a été organisé sur l'île de Jeon à Shinan, dans la province de Jeolla du Sud, une région qui présente des conditions similaires à celles du site nippon situé près de la mer.
Autant d'efforts acharnés sont indispensables, parce que la Corée du Sud est considérée comme l'ennemi public numéro 1 aux JO, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai, la discipline a fait même changer les règles afin de faire désavantager l'équipe nationale sud-coréenne. Finalement, il est primordial de cultiver un mental d'acier dont dépend la couleur des médailles récoltées. Les archers sud-coréens ont vu leurs efforts payés. Un tel savoir-faire laisse le pays miser davantage sur cette discipline.
Alors nous n'avons qu'à adresser nos meilleurs vœux aux archers sud-coréens. Espérons qu'ils surmonteront la pression pour monter sur la plus haute marche du podium avec un sourire rayonnant.
À demain pour notre feuilleton olympique avant l'heure.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yoon-ji à la rédaction, Franck Atlani au micro et Ho Ha-young à la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée.